l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga.
Jérémy Ponce, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes membre de l'association Chouaski, qui veut dire quelque chose en basque, hein ?
Absolument. Halte au feu, qui a en fait pour vocation de faire à terme cesser les feux pastoraux dans la mesure du possible, de façon progressive évidemment, de façon à ce que les éleveurs et ceux qui pratiquent les feux, les donneurs de feux, n'aient pas à subir les inconvénients qu'un arrêt immédiat pourrait provoquer, parce que pour eux ce serait une catastrophe, la fermeture des fermes quasi immédiate, et ça c'est pas du tout l'objectif. C'est au contraire de protéger la biodiversité, de protéger les zones qui sont brûlées, qui pourraient ne pas l'être, tout d'abord, et ensuite d'amener des alternatives sur les zones qui seront encore brûlées, de façon à ce qu'il n'y ait plus de feu, qu'elles soient défrichées autrement.
Alors attention, donc on va parler avec vous aujourd'hui des feux pastoraux, on peut appeler ça éco-buage, c'est peut-être pas exactement la même chose. Ce sont des vieilles techniques, des vieilles pratiques paysannes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les différences notamment entre les feux pastoraux, l'éco-buage, le brûlis ?
Alors les éco-buages, ce sont en fait des feux qui concernent des éléments végétaux qui auront déjà été coupés, amassés en tas, qu'on brûlera dans un coin d'une parcelle et dont on épandra les cendres sur la parcelle de manière à favoriser la qualité des sols, notamment avec un enrichissement en azote, etc. Alors que les feux pastoraux sont des feux grimpants ou descendants sur des parcelles. Donc on va allumer sur toute une ligne qui va de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres et qui vont, selon la configuration du terrain et les vents dominants, monter ou descendre, puisque ce sont en général en zone montagneuse ou des collines, et donc monter ou descendre de la colline. Ces feux sont censés être supervisés, et naturellement, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Les feux sont de moins en moins surveillés, les feux débordent, et les parcelles qui sont brûlées sont beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient auparavant. Les feux pastoraux, déjà, ont un but pastoral. Ça, on a tendance un petit peu à l'oublier quand on parle d'éco-buage, parce que il y a une sorte de dérive des feux pastoraux qui va jusqu'à nettoyer la montagne, y compris sur des parcelles où les animaux ne vont pas. Les feux pastoraux sont les feux qui sont censés être à but pastoral. La Révolution française, et jusqu'à il y a peu, alors oui, il y a eu un vrai virage au moment de la Révolution française, la déforestation s'est vraiment implantée. On a vu des forêts commencer à disparaître. Après la guerre de 40, après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire que les feux ont commencé à changer un petit peu de configuration, ont commencé à changer un petit peu d'aspect. Et le dépeuplement des campagnes progressif a fait que ces feux qui étaient au préalable extrêmement bien surveillés, extrêmement bien organisés, ont perdu de la main-d'œuvre. Et donc, ce sont devenus souvent incontrôlables. Mais il y a eu un véritable changement, on pourrait dire, aux alentours des années 60-70, réellement, avec la disparition des haies, l'arrivée un petit peu partout des barbelés et le dépeuplement de la région. Quand la France s'est transformée, que la plupart de la population est passée de la paysannerie à des activités secondaires ou tertiaires, la main-d'œuvre a disparu. Et dès lors que la main-d'œuvre disparaît, eh bien, la surveillance des feux est forcément amoindrie. Il y a beaucoup moins de monde pour surveiller un feu qu'il n'en avait auparavant. Et cela a poussé les éleveurs à brûler peut-être un petit peu moins souvent et plutôt de plus grandes étendues. La disparition des haies ont fait aussi que les voisins n'étaient pas à surveiller leurs haies et à s'assurer aussi que les feux ne débordaient pas chez eux. Ça, c'est un élément. Ensuite, il y a l'élément financier qui est arrivé et les contrôles qui y sont liés, qui font que si un éleveur brûle et qu'il reste un arbre ou deux sur sa parcelle, il sera pénalisé. Alors que les arbres et l'ombre sont souvent indispensables aux animaux qui pâturent, parce qu'ils ont besoin à la fois de se gratter, mais aussi de s'abriter du soleil. Quand le soleil tape, il est hors de question de laisser un animal en plein soleil. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui, parce que les terres d'élevage sont censées être complètement vides de végétation en dehors de l'herbe destinée aux pâtures. Et ça, c'est une dérive de la PAC, malheureusement, ou plutôt des contrôles liés à la PAC, qui font que qui nous amènent à des situations catastrophiques. Alors, il y a des nécessités parfois, il faut le reconnaître, comme par exemple un couloir anti-feu. Créer au préalable un couloir anti-feu, comme ça se fait dans beaucoup de régions du monde, dans de nombreuses régions où les feux d'été sont une menace particulière, ce couloir anti-feu, il peut être créé à un certain moment par le feu lui-même, à partir du moment où tout est organisé de façon à ce que ce feu-là soit complètement maîtrisé. Par ailleurs, un écobuage maîtrisé, bien encadré, et je dis bien un écobuage, pas un feu pastoral, un écobuage bien maîtrisé, bien encadré, peut enrichir la terre. Si on regarde la tradition, les anciens, sont eux qui le disent, il y a plus de 70 ans, pratiquaient les feux sur des petites parcelles de quelques hectares, 1 ou 2 hectares maximum. Ils brûlaient tous les 4, 5, 7 ou 8 ans, au lieu de brûler systématiquement la même parcelle tous les ans. Donc on voyait que l'herbe se régénérait, que les animaux, au bout de 2 ans, bah, appréciaient la zone. Et puis surtout, les animaux qui passaient sur ces parcelles étaient les trois dents, à savoir les moutons, les vaches, les chevaux, et qui donc eux-mêmes entretenaient la terre, entretenaient la parcelle, puisqu'ils allaient mâcher à des hauteurs différentes, et donc faire en sorte que la végétation ne se développe pas particulièrement. De plus, ils étaient sortis bien plus tôt dans l'année. Donc ça permettait évidemment de ne pas avoir des fougères comme on peut en avoir aujourd'hui, puisque la fougère est cassante au printemps. Et lorsque les animaux se baladaient dès le printemps sur ces espaces, cassaient les fougères et amenaient les graminées à se développer. Aujourd'hui, les feux sont limités entre le mois d'octobre et le mois de mars. C'est donc déjà beaucoup plus limité. Ensuite, en ce qui concerne la sortie des animaux, on ne peut pas exactement la comparer à ce qui se faisait dans le passé, parce que les animaux déjà vivent moins longtemps, ils sont envoyés à l'abattoir beaucoup plus vite, beaucoup plus jeunes, donc c'est sûr que beaucoup moins voient les pâtures qu'auparavant, d'une part. D'autre part, les impératifs qui sont imposés aux éleveurs font qu'ils n'ont pas nécessairement la possibilité de gérer les terres comme c'était fait auparavant. Néanmoins, il y a des endroits où le feu est entre guillemets indispensable parce que pour l'instant, on n'a pas d'alternative. C'est sûr et certain. Il est nécessaire d'avoir certaines parcelles de complètement nettoyées en raison des sentiers qui passent à travers, comme le GR. S'il y a trop de broussailles, d'herbes sèches durant l'été, et qu'un promeneur jette une cigarette, on risquerait d'avoir un incendie comme on peut en voir dans le sud-est de la France. Donc le feu pendant l'hiver est une nécessité sur certaines parcelles parce qu'on n'a pas d'alternative. On ne pourrait pas faire passer un gyrobroyeur qu'on n'utilise malheureusement pas encore suffisamment, qu'on commence un tout petit peu à utiliser. Mais le feu de ce point de vue-là est encore utile pour éviter les grands incendies de l'été, mais uniquement sur des petites zones qui sont malheureusement pas aussi limitées qu'on le voudrait. On voit bien que le paysage se veut d'être entre guillemets nettoyé, alors que ce n'est pas tout le paysage qui devrait être nettoyé. Ce sont seulement certaines parcelles aux abords des sentiers de randonnée qui devraient être défrichées de cette manière-là. Les animaux ne vont pas sur toutes les parcelles qui sont brûlées, malheureusement. Beaucoup de troupeaux sont gardés à proximité des exploitations. Et pourtant, on va brûler une grande partie de la zone parce qu'elle est dite pastorale, même si on ne voit pas les bêtes dessus pendant l'été. Donc ça, c'est un aspect déjà qu'on dénonce du côté de Chouachki. Et d'autre part, En ce qui concerne les mises en commun des moyens, on pourrait développer beaucoup plus le girobroyage et les techniques de girobroyage. Les girobroyeurs coûtent cher. Et malheureusement, le chalumeau ne coûte presque rien. En termes de temps, et le temps est aussi compté pour un éleveur, parce qu'il doit être rentré à une certaine heure pour nourrir ses bêtes. Et le girobroyage nécessite plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour toute son exploitation. C'est très compliqué de mettre en place un véritable système parce que même si les moyens sont existants, ils ne sont pas développés. La plupart des primes de la PAC servent aux fermes à subsister et non pas à développer des moyens nouveaux. Il faudrait que les subventions de la PAC soient dirigées beaucoup plus vers la distribution de girobroyeurs aux communautés, à une étude bien plus poussée des terrains de manière à ce que des moyens de girobroyage puissent être développés, qui n'existent pas forcément encore et qui permettraient d'atteindre des zones où il y a beaucoup de pierres, que les vaches atteignent mais que les éleveurs ne peuvent atteindre avec un tracteur ou un girobroyeur tel qu'ils existent aujourd'hui. Et donc trouver des moyens de développer des techniques, peut-être avec des chenilles, il faudra voir. Il faudrait certainement développer des nouveaux outils qui permettraient de girobroyer sans les risques des tracteurs, justement, lorsqu'ils tractent le danger réel pour l'exploitant qui risque de se renverser, c'est arrivé. Il faudrait ensuite surtout l'outil qui permet de passer au-dessus des pierres, le long des pierres et de reprendre juste derrière les... Il y a des zones où les pierres sont vraiment un petit peu partout. Et ça, c'est un problème parce que tous ces espaces, toutes ces zones qui pourraient être girobroyées, qui seront peut-être girobroyées dans le futur, sont encore passées par le feu, avec des risques évidemment bien plus importants qu'ailleurs, parce que ce sont en général des zones où il y a beaucoup de forêt. Le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas garantir que les feux seront faits et maîtrisés tels que les directives l'imposent. D'abord parce que beaucoup de donneurs de feux qui ont pourtant fait le minimum, à savoir déclarer le feu en mairie avant 10h du matin pour donner le feu dans la journée, vont passer sur la parcelle avec un chalumeau et ensuite quitter, je dis bien, quitter les lieux. C'est documenté, ils laissent le feu sans surveillance, aucun contrôle. Et puis d'un autre côté, on va avoir des feux où il y aura effectivement le tracteur, la citerne, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui vont s'assurer que le feu ne déborde pas. Il y a un petit peu de tout. Malheureusement, les feux qui ne sont pas surveillés sont évidemment ceux qui engendrent des drames. Parce que lorsque le feu déborde, personne n'appelle les pompiers puisque personne ne surveille la zone. Et on a vu des collines entières brûler. On a documenté sur le site de Chouachki, suaski.com, des photos où on voit des collines entières qui brûlent, des forêts qui brûlent. Et personne autour. Les panneaux qui sont censés être indiqués qu'un feu est en cours ne sont même pas posés. Et ça, c'est assez courant. Ça se voit d'une manière de plus en plus régulière parce que beaucoup de donneurs de feu s'imaginent que personne ne va passer par là, qu'il n'y a pas de randonneur pendant l'hiver, que la zone est désertique, entre guillemets, de tout passage humain à un moment ou à un autre. Et ça, ce n'est pas le cas. Il y a quand même des gens qui se baladent pendant l'hiver. On rencontre et on entend régulièrement des randonneurs se plaindre des feux et des randonneurs qui ont été interpellés par des éleveurs qui leur ont dit « Restez pas là, on allume ». Et lorsque j'ai conduit un petit peu plus loin, aucun panneau n'indiquait que des feux étaient en cours.
There.
La réglementation est là pour protéger tout le monde, mais la réglementation manque de moyens. Plutôt la préfecture, la police, que ce soit la gendarmerie ou l'ONF. Et l'ONF ne devrait même pas avoir à policier quoi que ce soit. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, ceux qui sont censés contrôler n'ont pas les moyens humains d'être partout à la fois, parce que quand ça brûle partout. Les jours propices à l'allumage des feux sont quand même assez limités. Sur la période d'octobre à mars, il y a peut-être 20, 30, 35 jours où on peut véritablement allumer des feux. Donc ce sont des journées où on peut avoir pratiquement tout le département qui s'embrase. On se rend compte de la masse, enfin des zones qui sont considérables et donc de feux qui vont être allumés pratiquement tous les kilomètres. Et on ne peut pas envoyer les gendarmes vérifier à qui appartient la parcelle, quand, comment, sur, et puis protéger le lieu, appeler les pompiers ne peuvent pas être partout et éteindre tous les feux, il y en a trop. Quand ça commence à brûler, ça brûle de partout. Les fumées sont irrespirables à des, je pourrais pratiquement dire, à des dizaines de kilomètres d'où les feux sont allumés.
D'accord. Donc des feux qui sont pratiqués sur des périodes assez courtes, des fenêtres météo favorables, un contrôle qui n'est pas forcément exercé par les autorités qui n'ont pas les moyens. Et donc vous, dans votre association Chou Aski, vous essayez d'aider à ce que ce soit mieux fait. Mais comme vous en parliez, il y a des alternatives, les gyrobroyeurs. Ça, c'est certain. Par rapport à ces questions-là, justement, comme vous essayez de faire respecter la loi et que vous vous mettez un petit peu dans des situations finalement qui peuvent déranger les agriculteurs, les éleveurs en question, il y a des tensions au sein de certains villages entre ceux qui font les feux pastoraux et ceux qui sont contre certainement et qui les subissent. Donc finalement, peut-être aussi une vision de comment vivre ensemble à la montagne. Des visions différentes qui s'affrontent.
En fait, petit à petit, on va arriver au changement. C'est à peu près sûr. Mais il faudrait que ce changement se produise avant le point de non-retour, qu'on atteigne le point de non-retour. Parce que, comme vous le disiez, Chou Aski est une sorte de vigie. On regarde ce qui se passe, on le documente, on en parle et on essaye d'amener tout le monde à raisonner autour du problème et à trouver des solutions. Chou Aski n'est absolument pas contre les éleveurs, bien au contraire. On est pour la préservation de la biomasse, pour la préservation de la biodiversité, pour la préservation des forêts qui existent encore et la reforestation, et pour la préservation évidemment du climat. Donc les intérêts sont conflictuels, les arguments même sont conflictuels. Et on arrive à des situations de tension, c'est évident. Seulement, la raison doit l'emporter. Et c'est ce que l'on essaye de mettre en avant, le fait que si l'on continue ainsi, l'érosion des terres, la désertification et donc la disparition de la biomasse, petit à petit, va se retourner contre les éleveurs, va se retourner contre les fermes et feront que ceux qui voudront un jour planter quelque chose quelque part ne pourront même plus le faire, parce que tout ce qu'on verra, ce sera de la pyrale, de la terramie, et plus aucune vie dans cette terre. Les lombrics, l'humus disparaît. Et ça, une fois que c'est parti, que c'est complètement sec, on ne pourra plus le changer, on ne pourra pas revenir véritablement en arrière, du moins pas pendant plusieurs siècles. On n'en est pas encore à ce point-là, du moins pas partout. On peut encore éviter justement d'en arriver là, parce que le véritable problème de ces feux, c'est qu'ils sont établis pratiquement sur les mêmes parcelles chaque année. Et donc l'érosion des sols et la stérilisation des sols est accrue. C'est quelque chose qui s'installe réellement, alors que la tradition d'il y a 50, 60, 100 ans et plus faisait que les terres se régénéraient. Je ne sais pas si ceux qui rédigent les textes de loi et qui ont mis en place la PAC ont bien tenu compte de tous les éléments sur le terrain, parce que lorsque l'on voit, comme je le disais tout à l'heure, qu'un arbre est compté comme un obstacle et que l'éleveur est sanctionné financièrement pour avoir laissé un arbre sur sa parcelle, on peut se poser véritablement la question sur la connaissance de ceux qui rédigent les textes par rapport au terrain qui les concerne. En fait, on pourrait très bien avoir des zones forestières bien plus étendues, beaucoup plus de forêts qu'il y en a aujourd'hui, remettre des arbres là où il n'y en a plus, notamment les chênes tousins qui souffrent énormément du feu et qui sont propres aux Pyrénées, que les touristes viendraient encore. Les arguments souvent sont avancés qu'il faut absolument nettoyer pour les touristes. Oui, c'est vrai, lorsqu'il est question des broussailles, lorsqu'il est question des dangers liés au feu. Mais dans une forêt de chênes, une forêt de châtaigniers, le risque de feu l'été est quasi nul. Mmh. Ce n'est pas une cigarette malencontreusement jetée au sol qui risquerait d'allumer un incendie, contrairement à d'autres régions comme les Landes, avec des pins qui s'enflamment très rapidement et des aiguilles au sol qui prennent feu très vite. Ce n'est pas le cas avec des chênes, ce n'est pas le cas avec des châtaigniers. Tout cela, ce sont des espèces qu'on pourrait très bien développer ici et qui rapporteraient économiquement. Nous pensons à Chouachki qu'on pourrait très bien remettre au goût du jour ces forêts qui ont disparu, qui sont en train de disparaître, et les valoriser tout aussi bien qu'on valorise des espaces dégagés. Il y aurait aussi bien des terres à nu avec des brebis dessus que des terres forestières dans lesquelles on pourrait se promener et qui, au niveau du climat, seraient un plus évident. Parce que des zones qui ont des forêts sont réputées pour être plus fraîches, d'une part. Et puis il y a quand même un point sur lequel il faut absolument qu'on aborde avant de terminer, qui est celui de la santé. Évidemment, des feux tels qu'on les voit aujourd'hui, qui brûlent sur des centaines, même des milliers d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares, c'est à peu près un dixième des terres qui brûlent tous les ans.
Ah oui, c'est énorme. Donc, énorme.
C'est énorme. Lorsqu'on voit les fumées qu'elles dégagent, les images satellites nous montrent qu'on dépasse Bordeaux, qu'on est entre Bordeaux et La Rochelle. Certaines zones sont irrespirables pendant les feux, avec des AVC, des crises cardiaques et évidemment des insuffisances respiratoires qu'on ne peut pas véritablement chiffrer parce qu'aucune étude n'a été faite en ce sens. Mais toutes les réunions que nous avons faites ou auxquelles nous avons participé, lorsqu'on a posé la question, il y avait des cas d'insuffisance respiratoire liée au feu, des personnes qui ont développé de l'asthme alors qu'elles n'en avaient pas auparavant, etc. Donc, d'un côté le climat, de l'autre côté l'aspect sanitaire, les fumées sont un danger. C'est quelque chose qu'il faut absolument réduire. Et c'est pour ça qu'on parle d'alternatives et qu'on est positif sur le futur, qu'on pense que d'ici quelques... peut-être une décennie ou moins, on arrivera à développer des moyens de défricher les zones qui doivent être défrichées pour des raisons de sécurité pendant l'été, évidemment, pour éviter les incendies, et puis pour les zones pastorales qui ont besoin de l'être, de trouver des alternatives viables au feu, à savoir des gyrobroyeurs bien plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec des subventions qui iraient dans le sens du gyrobroyage, et puis surtout des textes de subvention de PAC qui seraient liés à la condition de respecter la biodiversité, la biomasse, l'environnement en général, qui n'existe pas aujourd'hui. L'Europe n'a pas encore véritablement pris conscience, et quand je dis l'Europe, c'est toute l'Europe. C'est pas uniquement les politiciens, mais c'est aussi les populations qui n'ont pas encore véritablement pris conscience que le point de non-retour dans certains domaines était beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. L'érosion des sols a un impact sur les crues auxquelles on peut assister, parce que lorsque la pluie, et le Pays Basque est particulièrement humide et pluvieux, le Béarn aussi, lorsque la pluie tombe sur un sol qui n'a plus aucune racine, qui n'a plus aucun arbre pour retenir les eaux, eh bien les torrents coulent bien plus abondamment dans les gaves ou les nives, selon l'endroit, l'appellation, on va dire dans les rivières, puis dans les fleuves, et on se retrouve avec des crues complètement aberrantes, qui auraient pu être réduites si l'entretien des terres avait été fait en amont.
Avec plus d'arbres pour infiltrer l'eau dans les sols.
Voilà, plus d'arbres, avec plus de vie aussi, parce que la vie se nourrit d'eau. Et je parle pas, je ne dis pas que les sangliers ou les biches vont boire plus, non, simplement que l'eau va pénétrer dans le sol et permettre à l'humus de vivre, à la terre de se retourner, et donc de rentrer bien plus en profondeur que ce n'est le cas aujourd'hui.
Très bien.
Lorsqu'on a une terre qui est noble, qui est riche, qui est nourrie, l'eau rentre en profondeur et ne fait pas que couler le long et créer des catastrophes en aval.
Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien bien développé la question des feux pastoraux, donc avec un exemple d'action concrète que vous menez donc au Pays Basque grâce à l'association Chou Aski. Donc ça s'écrit SUASKI et le site internet c'est .com. Pour plus d'informations.
Absolument, et on est au service de tous les usagers de la montagne. On défend aussi bien les éleveurs, même s'ils ne se rendent pas toujours compte, que les randonneurs, que la biodiversité, avec malheureusement des espèces qui disparaissent et qu'on aimerait voir perdurer, et puis la santé de tous, des populations de toutes les populations. Des populations humaines, des populations animales, et on est persuadé et positif sur le. On est persuadé que les choses vont s'arranger, que les abus, que les excès vont se réduire, ne serait-ce que parce que les éleveurs vont prendre conscience de certains points, comme la nécessité absolue de surveiller les feux, même si la main-d'œuvre disparaît, que le dépeuplement des campagnes est quelque chose d'évident, de clair, de malheureux, qu'en s'unissant, qu'en créant des journées d'entraide, eh bien, on arrivera certainement à trouver des solutions. Pour ça, il faut qu'on discute, il faut qu'on ouvre un véritable débat. Plutôt que des querelles au Pays Basque, mieux vaut se mettre ensemble ici et puis forcer un petit peu la main à ceux qui rédigent les textes, de façon à ce qu'ils le fassent en tenant compte des nécessités sur le terrain et des besoins réels des populations. Voilà.
Merci.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir invités.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.